Radio Star Berlin.
Morning Edition. France
Inter, le 18-20.
Et ce soir, bien sûr, nous allons en Italie. Encore une alliance improbable, mais à front renversé. Matteo Salvini doit ruminer son coup de poker raté, mais c'est pas fini. En tout cas, des lignes peuvent bouger. En Europe aussi, on en parle avec Marc Lazare, premier invité dans un instant. Le bruit du monde à Cuba ce soir, qui jongle avec deux monnaies, l'officielle et l'officieuse. Amélie Perry, elle, nous emmène notamment en Iran avec des cassettes qui circulent sous le manteau. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, ou comment Bruxelles est congestionnée de voitures et essaye d'y remédier. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four et cette question, est-ce que Hong Kong a déjà perdu sa bataille? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Marc Lazare.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous enseignez également à Rome, spécialiste évidemment de ce pays et cette région. Je disais renversement d'alliance. D'abord, très honnêtement, on se souvient du début de la crise le 8 août dernier. Est-ce qu'on l'a vu venir, cette alliance renversée? À quel moment et qui finit par se dire « chiche, on le fait à l'envers »
Non, je crois que personne n'avait prévu ça, à commencer par moi-même. Et je crois que j'avais donné une interview à France Inter qui disait exactement l'opposé.
L'inverse,
donc voilà,
bien,
je fais
bravo.
Mon autocritique.
Vous avez raison.
Parce que je sais combien les auditeurs de France Inter sont vigilants. Mais donc non, je crois qu'on s'est tous trompés. Et je crois que Matteo Salvini, vous l'avez dit, s'est
aussi.
Trompé aussi. Mais c'est vrai que personne s'y attendait. Alors qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots? Matteo Salvini, en quelque sorte emporté par sa victoire aux élections européennes, par des sondages très favorables, poussé aussi par un certain nombre de poids lourds de son parti.
Il est péché par orgueil.
Par l'ubris, diraient les Grecs anciens, donc cette démesure, mais aussi avec un projet stratégique, c'est-à-dire qu'il pensait qu'effectivement, s'il gagnait des élections, il pourrait faire la politique qu'il aurait voulu, et notamment engager un bras de fer avec la Commission européenne de Bruxelles. Mmh. Et donc, ça ne s'est pas passé comme ça, pour trois raisons, pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'il y a des règles institutionnelles en Italie, et que c'est pas Monsieur Matteo Salvini, bien qu'il soit très populaire, qui décide de faire comme il veut, c'est-à-dire d'exiger la démission du président du Conseil, Monsieur Giuseppe Conte, d'exiger de la présidente du Sénat qu'elle convoque une réunion exceptionnelle en plein été des sénateurs, et troisièmement qu'il fasse pression sur le président de la République pour organiser, pour obtenir la dissolution des chambres, la Chambre des députés et le Sénat, puisqu'en Italie on vote au suffrage universel pour ces deux assemblées, à sa guise. Bon, ça n'a pas été possible. Et puis là, je crois sous-estimer un deuxième élément, ce que j'appelle le TSS, c'est-à-dire tout sauf Salvini, et là, il y a un homme qui a réapparu, on le pensait vraiment un peu marginalisé, c'est Matteo Renzi, qui à la surprise générale a dit « chiche, justement ». Lui qui a été l'objet de critiques terribles du mouvement 5 étoiles et qui a violemment critiqué le mouvement 5 étoiles, eh bien faisons barrage à Matteo Salvini.
Alors on va revenir effectivement à ce que peut donner cette alliance et à ce qui va se passer effectivement notamment avec le Parti démocrate, mais est-ce qu'on dit que c'est un échec personnel du coup de Salvini ou pas?
Oui, c'est un coup d'arrêt à son ascension incontestablement. Il a commis une erreur politique et c'est tellement vrai que se rendant compte de son erreur, il a retendu la main au mouvement 5 étoiles dans une tentative désespérée pour éviter d'être à l'opposition, car c'est ça le problème pour lui, c'est qu'il risque de se retrouver dans l'opposition et c'est aussi le calcul du Parti démocrate et du mouvement 5 étoiles, en espérant que l'opposition va être stérile, qu'il va s'user, qu'il va perdre une partie de sa popularité. Une autre hypothèse, c'est que si le gouvernement qui se met en place échoue, il puisse justement apparaître comme le grand sauveur. Mais vous avez raison, il a commis une erreur, il a pris un coup, mais attention, c'est une bête politique, Matteo Salvini. Sa popularité est très haute, il est très capable de rebondir et surtout il correspond à quelque chose de très profond en Italie.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait effectivement, si ça marche bien, ce sera dommage pour lui. Si ça marche pas, il le dit d'ailleurs lui-même, rendez-vous dans 6 mois, parce que ses électeurs à Salvini et ceux qui ont gagné notamment les élections européennes, évidemment, n'ont pas disparu.
Loin de là. Et puis on va avoir des tests vers le mois de décembre, au début du mois de janvier, il va y avoir des élections régionales très importantes. On va voir ce que vaut la ligne. Moi, je me méfie beaucoup des sondages qui montrent un petit déclin de la popularité de Matteo Salvini. La popularité de Matteo Salvini, elle est liée à plusieurs éléments. La situation de détresse sociale d'une grande partie des Italiens, le sentiment, moi, que je qualifie de nationalitaire, qui ne veut pas dire nationalisme, mais cette fierté nationale qu'il essaye d'incarner, la question des migrants, la question de l'immigration, la question européenne, autant de sujets sur lesquels Matteo Salvini surfe, et on peut dire aussi une forme de droitisation d'une partie de l'électorat de Matteo Salvini. Et donc ça dure, ça reste.
Mais est-ce que l'image qu'était en train d'avoir l'Italie, qui était celle de Salvini, au fond, c'est-à-dire le gars qui gouverne à l'emporte-pièce, qu'il fait finalement à la Trump, à coup beaucoup de tweets et de phrases de ce genre-là. Est-ce que ça commençait à gêner réellement les Italiens? Est-ce que ça fait aussi partie de cette, on va pour l'instant qualifier ça d'échec, de cet échec-là ou pas? Ou au contraire?
Oui, de son point de vue à lui, du point de vue de Matteo Salvini, je crois pas. Je crois qu'il joue sur deux registres. D'un côté, être l'homme providentiel, l'homme sauveur, et ça, il a toujours insisté là-dessus. Et de l'autre côté, c'est-à-dire une sorte de chef exceptionnel, l'homme providentiel, véritablement, moi, je qualifie ça de césarisme, comme on dit en France, du bonapartisme. Et puis de l'autre côté, d'être un Italien comme les autres. Et ça explique que toute sa communication, le fait que tout l'été, vous l'avez vu torse nu sur les plages, en train de boire un mojito, de regarder des filles en bikini, et puis de faire des déclarations à l'emporte-pièce. Je suis un Italien comme vous. Et donc ça, il l'a construit, et ça perdure. Une partie d'Italie ne supporte pas ça, et c'est celle qui est en train de s'organiser actuellement pour lui faire barrage.
Vous l'avez évoqué, il y a plusieurs choses sur lesquelles Salvini s'était montré réellement en pointe, j'allais dire, en bien ou en mal, c'est notamment les migrants, et moi je peux pas m'empêcher de voir qu'il a pas dit grand-chose là-dessus, Conte, dans son premier discours, et pour l'instant sur ce sujet-là, on sait pas très bien comment va se positionner l'Italie. Est-ce que le premier geste, précisément, parce que ce serait un geste à rebours, c'est d'accueillir les bateaux par exemple, ou au contraire, est-ce que finalement, cette politique-là, par exemple, peut rester quasiment la même?
Eh ben, vous pointez l'un des grands problèmes, parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui. On sait que ce sera Giuseppe Conte, de nouveau le président du Conseil, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va revenir en arrière sur ce qu'il a fait lui-même comme président du Conseil?
La question il que dit qu'il ne renie rien. Il a dit « je ne renie rien de ces 14 semaines ».
Comme le mouvement 5 étoiles, qui dit « on est dans la continuité ». Et le Parti démocrate, et on voit que là, il y a en quelque sorte deux conceptions de ce gouvernement, le Parti démocrate, qui donc est prêt à s'engager dans cette alliance, dit non, ce sera un gouvernement, pour reprendre la formule du secrétaire de ce parti, M. Zingaretti, un gouvernement de la discontinuité, donc ça veut dire de la rupture. Mais alors sur quoi? Et c'est là la grande question, par exemple sur les migrants. Le Parti démocrate souhaiterait revenir sur un décret qui a été adopté à l'unanimité par le gouvernement précédent, donc par M. Conte, décret dit sécurité pour justement pénaliser toutes les associations qui viennent en aide aux migrants et pour réduire encore les possibilités de droit d'asile. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui à cette question, sachant que le Parti démocrate lui-même est divisé entre ceux qui sont partisans d'une fermeté sur les questions des migrants et ceux qui sont dans une situation, disons, de plus grande ouverture, comme d'ailleurs dans le mouvement 5 étoiles. C'est un des sujets parmi tant d'autres qui montre que ça va être très difficile de gouverner parce qu'ils ont beaucoup de points de désaccord, ils ont aussi quelques points d'accord.
Les points d'accord, quand même, au fond, qu'est-ce qui fait qu'on peut quand même être sur des rails? Parce qu'il faut aussi rappeler qu'ils se détestent. Enfin, jusqu'à présent, ils se détestaient. Alors, peut-être que maintenant, vous savez, les choses en politique avancent, mais ils se détestent toujours autant entre 5 étoiles et le Parti démocrate.
Toujours, on a une détestation considérable. Le mouvement 5 étoiles a toujours dit que le Parti démocrate, c'était la honte de la honte. C'était un parti corrompu. Et le Parti démocrate a toujours dit que c'était des dangereux gars que le mouvement 5 étoiles. Donc, ça va être très difficile de créer un climat de confiance. Mais c'est vrai, vous avez raison, ils ont quelques points d'accord. Par exemple, sur la nécessité de faire des politiques sociales, de protection sociale. Ils sont d'accord, je crois, aussi pour faire des investissements en matière d'éducation et de santé, incontestablement. Sans doute feront-ils une politique toujours de fermeté d'un côté sur les migrants, mais aussi un peu plus d'ouverture, notamment peut-être la réouverture des ports pour notamment les bateaux qui transportent les migrants dans des conditions absolument dramatiques. Et puis surtout, et ça, c'est un élément très important, il semble qu'il y ait une véritable évolution du mouvement 5 étoiles sur les questions européennes. Le mouvement 5 étoiles a toujours été hostile à l'Union européenne. Il envisageait même, du temps de M. Beppe Grillo, fondateur de ce mouvement, une sortie de l'euro. Or, depuis quelque temps, on voit une attitude un peu plus ouverte en direction de l'Europe. Je vous donne un exemple. Les élus du mouvement 5 étoiles au Parlement européen ont voté en faveur de Mme Ursula von der Leyen. Et donc, le Parti démocrate la trouve un point d'accord. Et ça aura d'ailleurs des conséquences dans les relations franco-italiennes, qui vont s'améliorer encore plus certainement avec ce gouvernement.
Mais bien sûr, parce que l'Europe aussi trouve son compte de cette nouvelle alliance italienne, en espérant, j'imagine, que l'Italie retourne dans le bon giron, en quelque sorte. Est-ce que l'Europe, je pense à la France, l'Allemagne aussi, vont travailler dans ce sens-là? Faudra donner des gages, en gros, à ce nouveau gouvernement-là?
Je crois que la plupart des capitales européennes se réjouissent de cette situation. C'est incontestable. Et d'ailleurs, c'est ce que dénonce Matteo Salvini en disant que ce n'est pas un gouvernement né en Italie, c'est un gouvernement né grâce au soutien de Mme Merkel, de M. Macron et de la Commission européenne. C'est un de ses chevaux de bataille depuis 48 heures. Donc c'est un élément important. Oui, je crois que la Commission européenne va regarder d'un autre œil la politique de Rome et inversement, ce nouveau gouvernement, s'il entre en action, il y a encore quelques petites incertitudes, mais je pense qu'il se fera parce que la volonté du mouvement 5 étoiles et du Parti démocrate, c'est fondamentalement de ne pas avoir d'élections anticipées à l'automne. Donc ça se fera, ce gouvernement. Et ils peuvent espérer, peut-être avec le soutien de la France, d'obtenir un peu plus de souplesse.
Notamment sur le budget.
Mais bien évidemment. Et sachant que eux vont pas faire comme ils l'avaient fait l'année dernière, avec une grande agressivité, notamment par rapport à Monsieur Moscovici. Ils seront bien vus, et notamment les ministres, les futurs ministres du Parti démocrate. Donc on peut espérer une nouvelle configuration entre d'un côté l'attitude de Rome envers la Commission européenne, plus conciliante, plus ouverte, cherchant à plaider sa cause, et d'autre part une Commission qui se rend compte que l'Italie, c'est pas n'importe quoi dans l'Union européenne. C'est la troisième puissance économique, c'est la deuxième puissance industrielle, sans compter qu'historiquement, c'est un des pays fondateurs de l'Europe.
Ça veut dire, est-ce que la ligne de partage, au fond, parce qu'on peut appeler ça comme ça désormais en Europe, est-ce que la ligne de partage, l'équilibre entier peut bouger sur une attitude italienne, au fond?
Je crois que ce qui se passe en Italie, c'est absolument fondamental et décisif pour l'Union européenne, pour des raisons économiques d'abord, parce que effectivement, il y a une grande incertitude sur la situation de l'Italie, et sachant encore une fois son poids, c'est un élément fondamental pour l'Union européenne, et puis pour des raisons politiques. Si jamais ce gouvernement n'arrive pas à émerger, il y aura des élections anticipées. Et dans ce cas-là, Matteo Salvini risque de l'emporter. Et ça, c'est la grande hantise de plusieurs capitales européennes, parce que ça voudrait dire non pas un Italexit immédiatement, mais sans doute des tensions considérables au sein de l'Union européenne.
On a pointé du doigt effectivement le désamour, le non-amour entre le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles, mais c'est vrai, vous l'avez dit, il y a peut-être un peu d'eau dans le vin de 5 étoiles pour l'Europe. Il y a surtout un Di Maio qui est très affaibli, non? Est-ce que c'est ça aussi qui fait que peut-être cette alliance-là pourra fonctionner? Il s'est fait manger par Salvini dans son alliance précédente. Là, il est sur une sorte de fin de course, en fait, Di Maio. Et il n'a pas la superbe, il est très loin d'avoir la superbe qu'il avait, non?
Vous avez tout à fait raison. C'est manifestement un des perdants de cette crise politique avec Matteo Salvini. D'autant plus que lui, à partir du moment où ça a été déclenché, n'excluait pas de revenir à une alliance avec la Ligue une fois les tensions passées, parce qu'il se sent beaucoup plus proche de la Ligue que du Parti démocrate. Et donc Luigi Di Maio est en difficulté. Et puis ce qu'il faut comprendre aussi, pour ne pas rester simplement parmi les élites dirigeantes, c'est de savoir comment vont réagir les Italiens, bien évidemment. Et quand on regarde d'un peu plus près les enquêtes d'opinion que nous avons, nous savons par exemple que les électeurs du mouvement 5 étoiles, quand on leur demande en dehors de votre parti, de quel parti vous sentez-vous le plus proche, c'est largement la Ligue. Donc il va falloir faire passer cela auprès des électeurs du mouvement 5 étoiles, comme du côté des électeurs du Parti démocrate, qui eux sont très divisés. Il y a une partie de l'électorat du Parti démocrate qui se dit le mouvement 5 étoiles a une composante de gauche, ce qui est vrai, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une composante de droite, il y a aussi une composante écologique, et donc ces électeurs du PD sont plutôt, PD en italien, Partito Democratico, du Parti démocrate, sont favorables à une alliance avec le mouvement 5 étoiles, mais toute une autre partie s'en méfie considérablement. Ce que je vais appeler, disons, l'aile droite du Parti démocrate se méfie de gens qu'il considère comme étant un peu des démagogues.
Mais ça veut dire qu'il faudrait peut-être une autre figure, en fait, au sein notamment de 5 étoiles. De toute façon, c'est la fin de son mandat, Di Maio.
S'il y a des élections anticipées pour le moment. Et la bataille actuellement, excusez-moi de vous couper, mais dans la composition de ce gouvernement, c'est de savoir quel sera le rôle justement de Luigi Di Maio. Et Luigi Di Maio semble vouloir conserver un ministère important, voire une situation de vice-président. Il joue sa peau de dirigeant, vous avez tout à fait raison.
Il joue sa peau, mais est-ce que du coup, en insistant, il joue la peau du mouvement 5 étoiles ou pas?
Alors, c'est tout aussi le calcul du Parti démocrate, c'est de penser qu'il faut s'allier avec le mouvement 5 étoiles, de trouver des compromis, et que progressivement ce mouvement qui est très hétérogène va se liquéfier, va éclater, et que le Parti démocrate pourra récupérer une partie des électeurs de gauche qui avaient voté pour le mouvement 5 étoiles.
Et c'est un vrai calcul ça ou pas? Parce que autant la droite est symbolisée par Salvini, est-ce que vraiment 5 étoiles, autant la Ligue est symbolisée par Salvini, pardon, est-ce que le mouvement 5 étoiles est vraiment symbolisé par Di Maio, ou est-ce qu'au fond, s'il y en avait un autre, ça changerait pas grand-chose?
Je crois que ce mouvement est hétérogène dans sa composition. Encore une fois, il y a une composante de gauche, une composante de droite, une composante ni gauche ni droite et écologique. Et du coup, il y a des dirigeants avec des sensibilités différentes. Et Luigi Di Maio, actuellement, était le leader. Il sort affaibli de cette crise, vous avez tout à fait raison. Il a démontré aussi sa faiblesse politique, notamment par rapport à la bête politique qu'est Matteo Salvini, qui a une grande expérience, parce qu'il est en politique depuis sa tendre jeunesse, de l'âge de 18 ans, depuis qu'il était élu au Conseil régional, au Conseil municipal de Milan, puis ensuite au Parlement européen. Et par conséquent, d'autres dirigeants vont sans doute essayer de profiter de cette situation pour essayer de prendre la place de Luigi Di Maio.
Marc Lazare, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de Giuseppe Conte.
Oui.
Je lisais cette phrase dans la presse ce matin qui est plutôt jolie, qui dit qu'il est passé de pantin à marionnettiste. C'est assez vrai, en fait. On a l'impression qu'il s'est laissé manger. Pareil, d'ailleurs, au début, finalement, pendant l'alliance Ligue 5 étoiles, et que là, c'est lui, en dessous, qui a réellement mené les tractations. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Oui. Oui, je pense qu'au départ, c'est un universitaire, c'est un collègue donc, un professeur de droit, c'est quelqu'un qui n'avait aucune expérience politique, et au départ, moi je l'avais qualifié de notaire chargé d'exécuter le contrat de gouvernement. Il apparaissait comme falot, assez faible, et puis progressivement, effectivement, et il a couvert d'ailleurs toutes les mesures proposées, quasiment toutes proposées par Matteo Salvini. Puis il y a eu progressivement une évolution, la fonction fait l'homme aussi, hein, et par conséquent, il a été président du Conseil, il a évolué, notamment il a été l'homme des médiations constantes avec l'Union européenne. Et l'homme aussi, il ne faut jamais oublier cela quand on pense à l'Italie, des relations avec la présidence de la République, donc M. Mattarella, dont l'objectif fondamental, c'est de faire en sorte que l'Italie reste dans l'Union européenne. M. Mattarella, c'est un démocrate chrétien profondément européen. Et Giuseppe Conte s'est révélé un habile politicien au cours de cet été. Car Matteo Salvini est quand même venu le voir en disant, excusez-moi du langage que je vais utiliser, mais j'imagine que ça s'est passé comme ça, mon gars, tu dégages, tu donnes ta démission.
Et on se souvient du discours du 20 août, où Giuseppe Conte a dit ses quatre vérités à Salvini qui était à côté de lui.
Quelques jours après, Giuseppe Conte lui a dit non, je ne démissionne pas, et deux, je vais te donner une leçon de droit constitutionnel. C'est impossible ce que tu me demandes. Et donc, il a effectivement dégagé une marge d'autonomie qui fait qu'actuellement, il est en charge de constituer un deuxième gouvernement. Mais il a une grande faiblesse, attention. Ouais. Une grande faiblesse. C'est le fait qu'il n'a pas de parti, qu'il n'a pas d'élu, et que pour le moment, il reste justement une figure institutionnelle, mais qui n'a pas de répondant dans la société. Vous savez à qui ça me fait penser ?
Allez-y.
À Mario Monti. Mario Monti a été président du Conseil. Ses indices de popularité étaient considérables et il a commis l'erreur fondamentale de penser qu'à partir de ses indices de popularité comme chef de gouvernement, il pouvait se lancer en politique et ça a été un désastre.
Mais est-ce que Giuseppe Conte en sous-main pendant toute cette période-là, est-ce que c'est lui qui a arrondi les angles en fait pour faire en sorte que les choses n'explosent pas ? Donc de toute façon, son rôle, là, il se poursuit avec cette autre alliance qui est tout aussi contre nature.
Vous avez tout à fait raison, il a fait preuve de grande capacité de médiation, de diplomatie, de compromis, parfois aussi de compromission, parce que le décret de sécurité, par exemple, sur la question des migrants, il l'a adopté sans problème. Est-ce qu'il va renier maintenant ? Il a fait certaines déclarations qui laissent penser qu'il pourrait revenir là-dessus. Donc il va falloir donner un peu de cohérence à tout cela. Et pour le moment, c'est pas très clair. Lire dans le marc de l'espresso, comme vous le savez, il est particulièrement épais.
C'est vrai. Il y a pris goût peut-être, non ?
Qui ne prend pas goût au pouvoir ? Qui ne prend pas goût à être président du Conseil ? À être au G7 ? À être reconnu ? Et ces jours-ci, d'avoir en plus la bénédiction de Donald Trump, et ça c'est une autre défaite pour Salvini. Donald Trump a dit Giuseppe Conte is a good guy. Et donc, il faut le soutenir. Et Salvini, pour lui, c'est un choc parce qu'il espérait avoir le soutien de Trump.
Or, ça aurait pas changé grand-chose.
Non,
en soi.
Mais dans l'image du leader Salvini, lui qui se prétendait comme l'homme capable de faire la médiation entre Poutine et Trump, eh ben, l'administration américaine a trouvé qu'il était trop pro-poutinien.
Marc Lazare, vous aussi, vous êtes un good guy.
Merci beaucoup.
On est content.
Je ne sais pas si c'est le même compliment.
Non, c'est mieux. C'est mieux, je vous assure.
Je n'en doute point.
Merci beaucoup. À bientôt dans Un jour dans le monde, comme d'habitude, avec plaisir.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
Et dans la prochaine demi-heure, le bruit du monde est à Cuba qui jongle avec ses deux monnaies. Amélie Perrier sous les radars.
Et une devinette, le point commun entre le Rwanda et le club de foot d'Arsenal.
On verra ça tout à l'heure, 18h50, l'Europe, on l'aime ou on la quitte, Angélique Boin.
On va parler d'embouteillage à Bruxelles et d'une compétition mondiale d'air guitare en Finlande.
Et à tout à l'heure, Angélique, le monde à l'envers, Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc, à Hong Kong.
Oui, la Chine monte en régime, ça sent le roussi.
Allez, à tout de suite, toute la bande, voici Alani sur France Inter, chalala. When you told me the other day that you wanted to come back to stay, it soothed me. Your words they soothed me, baby. Then I heard from one of your guys. All you told me really was a lie of me. Darling, you hurt me. Sha-la-la, won't happen, baby. Sha-la-la, sounds so lonely, baby. Sha-la-la, it's awfully empty without you, girl. Le bruit du monde ce soir vient de Cuba, c'est le bruit des pièces de monnaie. Si vous êtes allé à Cuba déjà, vous savez que les Cubains jonglent entre le peso cubain et le peso convertible. Le peso convertible, c'est où c'est ? Qui est censé être la monnaie la plus forte à coller au dollar. Mais à Cuba, évidemment, rien n'est simple. Et c'est Domiti Piron qui vous le raconte.
À l'heure d'aller faire les courses, la double monnaie devient presque un casse-tête ici, dans un marché couvert du quartier du Vedado. À deux pas du Malecón, Caridad vend des vêtements dans une boutique du secteur privé. Une robe vaudra donc 300 pesos cubains ou 12,5 pesos convertibles. Les deux monnaies sont affichées, les clients choisissent, mieux vaut avoir une calculette à portée de main.
Mira, casualmente, ayer, yo vendí...
Regarde, par exemple, hier, j'ai vendu 10 articles au total et 7 ont été payés en monnaie nationale et le reste en couple. Donc ça dépend. Il y a des jours où je vends en monnaie nationale, d'autres plutôt en couple. Et c'est très difficile quand il faut faire les comptes ou rendre la monnaie. Parfois, on me donne des pesos cubains et je rends la monnaie en couple. C'est très compliqué.
CUC, Cook, Peso, Devise, Dollar, Chavito, autant de noms qui désignent l'une ou l'autre des monnaies, c'est effectivement compliqué. Mais si la monnaie convertible est parfois appelée devise, c'est bien pour signifier que c'est celle qui a de la valeur, c'est celle qui permet d'acheter les produits importés. Dans les mains de Miguel, deux billets de 10, l'un assez sobre, dans un dégradé de marron, présente le visage de Maximo Gomez, l'un des leaders de l'indépendance cubaine. L'autre, plus coloré, affiche une statue de Maximo Gomez avec un design plus moderne et la mention « convertible ». Au-delà de l'apparence, Miguel Pérez y voit une différence fondamentale.
Avec ça, tu peux acheter du sucre, du riz, des haricots, des choses comme ça. Avec l'autre billet, la devise, tu peux acheter de la bière, du rhum, du savon, du détergent. La majorité des choses, tu peux les acheter en couc. Parce qu'en monnaie nationale, il y a beaucoup de choses qui ne se vendent pas. Alors que c'est notre monnaie nationale cubaine. Le peso cubain a perdu beaucoup de sa valeur et tu ne peux pas tout acheter avec cette monnaie. Par exemple, une serviette, tu l'achètes en couc. Du dentifrice, tu l'achètes en couc. C'est pour ça que je te dis que le peso cubain est très très bas.
Dans les magasins d'État où seul le peso cubain est accepté, aujourd'hui, on pouvait trouver de la farine de blé, de la compote de mangue, des petites galettes et pêle-mêle quelques pièces de plomberie, des slips et de la viande de porc. Les magasins qui acceptent les deux monnaies sont un peu plus et mieux achalandés et climatisés. Et au marché de fruits et légumes, les deux monnaies sont acceptées, mais attention au taux de change. Ici, le CUC n'a pas la valeur officielle, comme le remarque Ernesto Ribeiro Garcia.
Tu perds à la conversion. Au marché, on paye en monnaie nationale, parce que si tu achètes avec des devises, ils te les dévaluent. Un couc vaut 23 pesos, alors que le taux de change officiel est à 24. Dans les bureaux de change, un couc vaut 24 pesos cubains. Dans la rue, un couc vaut 25. Et quand tu vas au marché, ils te le prennent à 23. Donc c'est tout un jeu dans lequel ils dévaluent la monnaie.
Un jeu peu apprécié du quarantenaire. Il est coursier à l'hôpital. Son salaire est de 250 pesos cubains, environ 10 dollars, plus 10 pesos convertibles de bonus, une récompense s'il travaille bien. Donc le problème n'est pas forcément d'avoir deux monnaies, mais d'avoir de l'argent, tout simplement, plaisante-t-il. Les fonctionnaires et les retraités ont effectivement peu accès à cette monnaie forte, créée en 1994 en pleine période spéciale après la chute de l'Union soviétique. La monnaie convertible avait permis d'effectuer des transactions internationales, mais avec deux monnaies et l'émergence des travailleurs du secteur privé, le système cubain avance à deux vitesses. Et voilà maintenant presque 10 ans que la rumeur de l'unification monétaire court, ce qui serait une bonne nouvelle selon José Alberto Mateo Brusson, qui, comme beaucoup de Cubains, n'aime pas cette monnaie convertible.
On abandonne la devise et qu'on n'utilise plus cette monnaie. On a toujours utilisé qu'une seule monnaie, une monnaie cubaine, pourvu qu'on revienne à notre monnaie cubaine.
Mais en attendant, José continuera d'utiliser ses deux porte-monnaies pour deux monnaies.
Domitille Piron et ses deux porte-monnaies tiennent comme tout le monde à la vanne pour un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde passe aussi sous les radars. Amélie Perrier est là. Et Amélie, c'est pas parce que l'Iran observe strictement la charia que les Iraniens n'ont pas de vie sexuelle.
Oui, la preuve avec cette histoire de sex tape qui démontre toute l'hypocrisie de certains dirigeants.
Tell me your name.
Anne Bishop Mulaney.
So what do you want to talk about?
What do you usually talk about?
Sex.
Okay, let's talk about sex.
Let's talk about sex. Vous l'avez ? Andy McDowell.
Sexe, mensonge et vidéo.
Absolument. Et ces dernières semaines, des films de deux hommes politiques en plein débat ont fuité sur les réseaux sociaux en Iran. Si on connaît le phénomène en Occident, il est quasi inédit en Iran. Le site de France 24 nous dit que c'est une première depuis la révolution islamique de 1979. Le scandale a éclaté tout début août, des images d'Ali Mohammad Ahmadi, l'ancien gouverneur d'une province du sud-ouest du pays, au lit, nu, avec une femme. Ils sont filmés par une caméra caché apparemment. Selon les médias locaux, il a été piégé par des renseignements étrangers pour le forcer à l'exil au Canada, mais comme il aurait refusé, toujours selon la presse locale, la vidéo aurait été diffusée. Deuxième salve, deux jours après, une autre vidéo où l'on voit l'ancien gouverneur avec la même femme, qui n'est pas son épouse, en train de l'embrasser et de discuter. Ahmadi est proche du gouvernement Rouhani, centriste, réformiste. Il s'est lancé dans la campagne pour les législatives de l'an prochain. Et puis trois jours après, Ahmadi a été rejoint par un second homme politique piégé, Abbas Malekzadeh, le maire de Sadra, une ville dans le sud de l'Iran. Alors, s'il s'agit certainement à chaque fois de manœuvres politiciennes, pour les journalistes iraniens, cela prouve surtout l'hypocrisie de la société et des politiques iraniens. C'est un secret de polichinelle, la double vie de nombreux hommes de pouvoir, mais là, la diffusion de ces images démontre les passe-droits de ces élus, car eux ne devraient pas avoir à répondre de leurs actes. Alors qu'il y a une dizaine d'années, une actrice avait été piégée par une sextape, elle avait été arrêtée, condamnée, contrainte à l'exil. Une loi avait été votée à l'époque pour punir toute vidéo à caractère sexuel de la peine de mort.
Amélie, des images maintenant de Philadelphie, c'est aux États-Unis, qui nous ont rappelé celles de Notre-Dame à Paris.
Oui, une église a été ravagée par les flammes mardi en direct à la télévision.
Firefighters remain on the scene of that church fire in the Parkside section of Philadelphia this morning.
Alors voilà, l'édifice d'allure gothique daté d'il y a 115 ans. Les flammes, comme à Notre-Dame, ont ravagé la structure du toit. Certaines parties se sont effondrées, mais les pompiers sont désormais venus à bout du feu. Une personne a été blessée. Les dégâts sur le bâtiment sont importants, à en croire les images des drones. La paroisse est en train de créer une cagnotte pour aider à la reconstruction. Pas sûr qu'elle soit aussi efficace que pour la cathédrale parisienne.
Allez, une petite devinette pour terminer. On parle de foot.
Alors dites-moi, quel est le lien entre ça?
Aubameyang. Oh, through it goes Kolasinac. Lacazette to make it 2-0.
Voilà, un but de Lacazette pour Arsenal. C'est du foot anglais. Le lien avec ça.
I'd like to welcome you here inside the National Park. So from here, we're going to enjoy the beautiful forest.
Voilà, c'est un garde d'un parc national au Rwanda qui nous souhaite la bienvenue, comme à tous les touristes, pour découvrir la forêt et surtout les gorilles. Eh bien, le lien, c'est que grâce au club de foot anglais, Arsenal, les autorités rwandaises se félicitent aujourd'hui d'une augmentation de 8% du nombre de visiteurs dans le pays. En 2018, 1 700 000 touristes étrangers sont venus découvrir les richesses du Rwanda. Car depuis un an, sur les manches du maillot des joueurs d'Arsenal, il y a ce message « Visite Rwanda ». Visitez le Rwanda. Kigali assure que le contrat a coûté l'équivalent de 34 millions d'euros. Mais un cabinet d'experts estime qu'environ 60 millions de personnes à travers le monde ont pu voir ce message « Visite Rwanda » sur les maillots des joueurs, étant donné l'exposition mondiale du club. Et des études montrent que les fans d'Arsenal ont une image bien plus positive du Rwanda maintenant qu'il y a un an. Quand le contrat a été signé en mai 2018, il a fait polémique, trop d'argent dépensé pour pas grand-chose. Aujourd'hui, le président Paul Kagame se félicite de son pari sur les réseaux sociaux. « Nous avons plus ou moins rentabilisé ce que nous avons dépensé », écrit-il, « et nous attendons beaucoup plus ». Le Rwanda, prochaine destination de vacances, pourquoi pas, le pays des mille collines est vraiment superbe.
Absolument, paraît-il, en effet. Merci beaucoup Amélie Perrier, tous les jours avec nous dans Un jour dans le monde. Dans un instant, on parle d'Europe avec Angélique Bouin. Voici Creedence Clearwater Revival, Up Around the Bend.
Ah.
Williams, Clearwater Revival, Up Around the Bend, et c'est sur France Inter.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est tous les jeudis. Grâce à vous, Angélique Bouin, nous restons à Bruxelles avec vous. D'abord, où vous habitez, où vous vous trouvez, qui est l'une des villes, Angélique, les plus embouteillées d'Europe. Mais peut-être que ça va changer.
Eh oui, parce qu'avec une taxe, que veut mettre en fait en place la nouvelle ministre régionale de la mobilité, une taxe qui serait plus ou moins élevée, eh bien selon l'heure à laquelle vous entrez en voiture dans la capitale européenne. Ici, rappelons-le que l'un des plus gros bazars quotidiens, c'est le quartier européen, le siège des institutions. Aux heures de pointe, il y a le balai des voitures officielles, les grosses berlines, mais aussi les voitures particulières des navetteurs, des fonctionnaires de la Commission ou du Parlement, des lobbyistes, des diplomates, bref, de ces 40 000 travailleurs européens dont un certain nombre habitent en dehors de Bruxelles et qui viennent y travailler. Et puis, il y a d'autres zones rouges en ville, hein, comme les tunnels ou les quartiers d'affaires, car les voitures de fonction sont légion. En Belgique, les entreprises en fournissent très facilement aux cadres. Résultat, Fabienne, matin et soir, la circulation ici, c'est un vrai cauchemar.
Alors, la nouvelle majorité régionale, donc, a décidé de s'attaquer au problème.
Eh oui, la nouvelle ministre écolo, Elke van der Brand, veut instaurer cette nouvelle taxe d'ici 5 ans. Ce système reposerait en fait sur des caméras intelligentes qui sont déjà installées dans les rues. Il y en a quelques 200 aujourd'hui. Elles contrôlent déjà l'accès à la zone de basse émission où certains véhicules trop polluants sont déjà interdits depuis l'an dernier. Ces caméras scannent la plaque d'immatriculation et elles imposeraient une taxe selon l'heure et le type de véhicule. Alors, va-t-elle réussir à amener son projet? C'est pas sûr, car ses déclarations dans la presse cette semaine ont provoqué une bourrasque politique avec les gouvernements des régions voisines, la Flandre et la Wallonie, qui veulent que l'on coordonne la politique régionale des transports. Idéalement, il le faudrait, reconnaît la ministre, mais à Bruxelles, dit-elle, nous n'avons pas le temps d'attendre 10 ans. Rappelons que la percée des écologistes aux élections régionales du mois de mai, c'est un tournant dans cette région de Bruxelles-Capitale, que des mesures concrètes sont déjà annoncées. La nouvelle majorité a par exemple décidé de généraliser d'ici 2 ans la limitation à 30 km/h de la vitesse autorisée dans les 19 communes de ce territoire. Est-ce que tout cela sera dissuasif? Eh bien, il suffirait que 20% des automobilistes décident de se déplacer autrement pour régler ce gros problème d'embouteillage. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités locales.
Allez, direction maintenant, Angélique, la Finlande, où vient d'avoir lieu le Festival mondial d'air guitare.
Ah oui, alors j'avoue que c'est un art un peu curieux. Moi, ça me laisse à chaque fois sans voix. C'est un mélange de musique,
sans guitare,
de théâtre,
si voire... je peux me permettre.
Et sans guitare, voire de sport, vu l'énergie des candidats sur scène. On rappelle que l'air guitare, c'est être face à un public sans instrument et puis de mimer les gestes d'un vrai guitariste sur un morceau musical. C'est assez lunaire. Alors à Oulu, dans le nord-ouest de la Finlande, cette compétition rassemble chaque année des milliers de fans. C'est un championnat du monde. Je dirais que c'est un peu du théâtre. Il y a des scénographies très, très recherché. Alors voilà, sur cette vidéo là,
ouais,
dont vous entendez la bande son, on voit la championne du monde 2018. C'est une japonaise. Elle entre sur scène d'abord en tenue de cendrillon avec son seau de ménage. Elle nettoie son sol, puis elle se relève, elle prend sa fausse guitare électrique, il n'y en a pas, puis elle se transforme en fait. Son habit de pauvrette devient un habit de lumière à paillettes. Apparemment elle avait superposé des robes, c'est super bien fait. Et là, elle se déhanche telle une furie. Voilà, c'est absolument édifiant. Le public exulte, elle obtient une super note. C'est génial. Il y a beaucoup d'autodérision dans cette pratique dont le slogan est le suivant: faites de l'air, pas la guerre, parce que vous ne pouvez pas tenir une arme à feu quand vous jouez de l'air guitare. Et cette année, Fabienne, c'est un Américain qui a été sacré champion du monde, le Français Frédéric Réau, qui participait et qui se fait joliment appeler French Kiss, lui, il est arrivé 3e, c'est pas mal.
Eh ben, écoutez, bravo. Merci beaucoup, Angélique Bouin. L'air radio, tiens, ça commence tout de suite, ça finit même avec Jean-Marc Four.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Ça se poursuit surtout. Le monde à l'envers et Jean-Marc Four qui fait du air, quoi, air pipo.
Allez, oh bah c'est gentil.
Je vous l'ai vu faire ça. Allez, un nouveau compte à rebours a démarré à Hong Kong où une nouvelle manifestation est annoncée après-demain. Après les énormes mobilisations de cet été, Jean-Marc, on serait tenté de penser que le pouvoir chinois est condamné à reculer. Mais vous avez l'avis contraire, la Chine peut gagner et c'est votre monde à l'envers.
Oui, on aimerait pouvoir dire que la liberté va l'emporter à Hong Kong, que la ville va parvenir à conserver son statut particulier afin d'échapper aux diktats de Pékin, que la Chine ne peut pas faire plier ces foules immenses jusqu'à 2 millions de personnes dans les rues sur 7,5 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, il y a de nombreux signes qui annoncent l'inverse. D'abord, on sent bien que le pouvoir chinois est tenté de, passez-moi l'expression, siffler la fin de la partie. Pour la première fois, la manifestation annoncée après-demain est purement et simplement interdite. Même les rassemblements statiques qui étaient autorisés jusqu'à présent ne sont plus tolérés. Argument officiel de la police, le risque de violence et de terrorisme. Et puis il y a des bruits de bottes. La nuit dernière, à 4 heures du matin, des dizaines de véhicules blindés chinois ont traversé la ville. Un peu plus tard dans la matinée, des hélicoptères militaires ont survolé le centre. Un navire a été positionné au large. Alors le pouvoir chinois a beau préciser qu'il s'agit d'une relève annuelle de routine, on a quand même du mal à y croire. Vous en voulez encore, en voilà. L'un des leaders du mouvement de contestation, Jimmy Cham, a été agressé par des inconnus avec des battes de baseball. Des rumeurs persistantes annoncent le blocage prochain de certains sites internet. Donc on n'en est pas encore à la répression, mais l'intimidation, elle est bien là.
Alors, jusqu'à présent, Jean-Marc, le pouvoir chinois a quand même été obligé de reculer, notamment devant les immenses mobilisations.
Ouais, cela dit, il n'a pas reculé tant que ça, c'est vrai, le texte sur les possibilités d'extradition judiciaire vers la Chine, vous savez, ce texte qui a déclenché la colère au départ, a été suspendu, mais uniquement suspendu. Et la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, qui est la cible principale des manifestants, elle est toujours en place. Pékin, jusqu'à présent, fait surtout le dos rond. Mais le pouvoir chinois ne va pas renoncer à faire plier Hong Kong pour deux raisons. La première est politique, c'est dans l'ADN du Parti communiste chinois de vouloir affirmer son contrôle. Et pour le président Xi Jinping, c'est une question d'autorité et presque de légitimité. Il ne cédera pas. La seconde raison est économique. Pékin veut créer, on le sait, autour de Hong Kong, une immense zone commerciale et d'innovation. C'est déjà en cours, une Silicon Valley chinoise centrée autour de Shenzhen. Et cet objectif qui inclut Hong Kong ne sera pas abandonné de sitôt. On peut le dire autrement, Pékin a perdu une bataille, mais a l'intention de gagner la guerre. Ça sera peut-être par la répression, ou plus subtilement, en dressant par exemple l'opinion publique chinoise contre les Hongkongais. L'opération est d'ailleurs déjà en cours, il s'agit de pousser les manifestants de Hong Kong à se radicaliser pour mieux légitimer en retour la répression. Donc le pouvoir chinois va riposter d'une manière ou d'une autre, et à minima, il jouera le temps long, c'est-à-dire qu'il attendra le moment opportun pour faire tomber Hong Kong.
Mais il y a quand même la communauté internationale, non, qui dira rien, qui laissera une nouvelle répression à la Tiananmen ?
C'est très possible, oui. Regardez le communiqué du G7 il y a trois jours, je cite « Nous réaffirmons l'importance de la déclaration sino-britannique de 1984 et nous appelons à éviter les violences. » Bon, d'abord, on se dit c'est bien, les Occidentaux font le boulot. Ils rappellent qu'Hong Kong est censé bénéficier d'un statut autonome jusqu'en 2047, puisque c'est l'objet de cette déclaration de 1984. Mais en fait, si on y réfléchit, c'est bien le service minimum. Le G7 pouvait quand même pas faire moins. Et même ça, ce modeste rappel à l'ordre, il a suffi à déclencher les foudres de Pékin. Nous sommes très mécontents, c'est une ingérence dans nos affaires intérieures. Couchez le chien. Le fait est qu'en dehors de ce communiqué ultra-offensif, les Occidentaux sont plutôt couchés depuis trois mois et depuis le début des manifestations. C'est service minimum. Dans le meilleur des cas, on entend les diplomates dire « nous suivons la situation, la belle affaire ». Il y a 30 ans, au moment de la répression de Tiananmen, on n'avait déjà pas dit grand-chose. Alors maintenant que la Chine est devenue une superpuissance, vous imaginez. Et comme en plus, entre-temps, l'idéologie du nationalisme, du « chacun chez soi » a gagné du terrain, on voit mal les Occidentaux s'en prendre ouvertement à la Chine. En fait, seuls les enjeux financiers, économiques liés à Hong Kong peuvent faire reculer Pékin. Pour le reste, les manifestants ne peuvent compter que sur eux-mêmes.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four tous les soirs dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne juste avant. Il y a le journal de Sébastien Paour, ne changez rien.